Bonjour à chacun et chacune. Alors aujourd'hui, on va conclure la série de prédications qu'on a commencé en janvier sur notre projet d'église. Donc il y avait 5 points dans notre projet d'église et il y en a un qu'on n'a pas encore vraiment abordé, qui est de consolider et de développer les groupes de maison. Donc vous voyez s'afficher nos différents groupes de semaines. Et je me dis que la liste n'est pas tout à fait exhaustive, on pourrait rajouter d'autres groupes plus particuliers, comme le groupe de jeunes, par exemple. Alors ça peut sembler peut-être un peu étrange de faire une prédication sur les groupes de maison, parce que les groupes de maison n'apparaissent évidemment pas en tant que tels dans la Bible, mais c'est un thème qui me tenait personnellement à cœur. D'abord parce que je crois qu'ils sont profondément liés à notre vision d'Église, notre vision qui est de s'enraciner, de croître et de porter du fruit. Et puis aussi parce que je suis personnellement transformée et bénie en profondeur par ce que je peux vivre avec les frères et sœurs de mon groupe de maison. Alors les groupes de maison n'apparaissent pas en tant que tels dans la Bible, mais par contre, beaucoup des récits bibliques se passent dans l'intimité d'une maison. Et une de mes amies fait d'ailleurs partie d'un groupe de maisons qui a choisi pour thème cette année Jésus dans les maisons. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors on voit dès le début des Actes des Apôtres que les premiers chrétiens semblent se réunir selon une double structure, à la fois au temple et dans les maisons. Alors bien sûr, la notion de maison dans l'Antiquité n'était pas vraiment la même que la nôtre, ni les raisons pour lesquelles les premiers chrétiens s'y réunissaient. Mais on sait en tout cas aujourd'hui que ce qu'on appelait les églises de maisonnée des premiers siècles étaient des lieux où se renversaient les rapports de domination de l'époque. C'était des lieux où on pouvait vivre la liberté individuelle et l'égalité, par exemple, entre hommes et femmes devant Dieu. Des lieux aussi où sont nées des premières réflexions sur l'esclavage. Alors, de façon un peu anachronique, le temple pourrait symboliser aujourd'hui notre culte du dimanche, comme aujourd'hui, où toute l'Église est rassemblée. Et les maisons seraient nos petits groupes de semaine qui nous aide à passer du dimanche au lundi et à vivre l'extraordinaire de la vie chrétienne au cœur de l'ordinaire de nos jours. Pour employer des termes contemporains, on pourrait dire aussi que les groupes de maison sont des sortes de tiers-lieux où on apprend et on réinvente le vivre ensemble. Et puis, je crois que ce sont surtout, et enfin, des lieux où on grandit dans sa foi et où on voit grandir les autres, en se frottant directement à eux, de sorte de laboratoire où on apprend à vivre concrètement l'amour de Dieu. Alors parmi les nombreux textes qui mettent en scène Jésus dans une maison, j'en ai choisi un qui me semble montrer de façon très concrète et très incarnée comment un groupe de maison peut vraiment nous transformer et nous faire grandir. Et j'y perçois trois pistes de ce que pourrait être un groupe de maison sur lesquelles on va revenir. Ce serait d'abord un lieu où Jésus se laisse inviter et où il invite tout le monde. Ce serait ensuite un lieu où on apprend à affiner son regard, à la fois sur les autres, sur Dieu et sur soi-même. Et ce serait enfin un lieu où la parole peut s'incarner et où se répand un parfum d'amour et de pardon. Alors, je vous propose de lire ce texte qu'on trouve au chapitre 7 de l'Évangile de Luc, qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Et j'ai choisi une traduction un peu différente, c'est la nouvelle traduction de Bayard, qui a été faite à la fois par un exégète, donc un spécialiste de la Bible, et par une écrivaine. Un des pharisiens a invité Jésus à déjeuner en sa compagnie. Il va dans la maison du pharisien. Il s'allonge. Une femme de mauvaise vie est en ville. Elle apprend qu'il prend un repas chez le pharisien. Elle apporte un flacon de parfum en albâtre. Elle est au pied de Jésus, derrière lui. Elle pleure. Elle mouille ses pieds de larmes. Avec ses cheveux, elle essuie ses pieds et les baisse tendrement. Elle les couvre de parfum. Son hôte pharisien regarde. Il se dit, lui, s'il était prophète, saurait quelle sorte de femme le touche, c'est une hors-la-loi. Jésus lui répond, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, » dit-il. Deux hommes avaient des dettes auprès d'un créancier. L'un devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi le payer, il annula leur créance. « Qui l'aimera davantage ?» Simon répond qu'il suppose que c'est celui à qui il a fait la plus grande faveur. Il lui dit « Tu as bien jugé. » Il se tourne vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entrée chez toi et tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds. Elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as donné aucun baiser. Elle, depuis mon arrivée, n'a cessé de me baiser tendrement les pieds. Toi, tu n'as pas parfumé mes cheveux. Elle, elle a couvert mes pieds de parfum. Je te l'ai dit, elle aime beaucoup celle à qui on a beaucoup pardonné. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Après quoi, il a dit à la femme, tes fautes ont été effacées. Ceux qui partageaient le repas pensent, qui est-il donc pour effacer même les fautes ? Il a encore dit à la femme, ta confiance t'a délivrée, pars en paix. Amen. Alors les groupes de maison sont tout d'abord des lieux où Jésus se laisse inviter et où il invite tout le monde. Dieu habite là où on se réunit en son nom et qu'ils aient lieu sur Zoom ou en présentiel. Nos groupes de maison sont d'abord des endroits où s'invite Jésus, la pierre angulaire de la maison de Dieu. Et en lui, chaque groupe de maison est bien sûr uni à l'Église tout entière puisque nous avons le même fondement. Et nos groupes peuvent d'ailleurs être l'occasion de prier pour des sujets liés à la vie de notre Église ou pour d'autres membres de notre Église. Le pharisien de notre histoire invite Jésus chez lui, et ce malgré les diverses controverses qui ont déjà eu lieu entre Jésus et son groupe de pharisiens. On peut souligner ici son effort de conciliation. Il désire mieux connaître Jésus, mieux savoir qui est cet homme, et à cette fin, il le convie à manger, comme cela se faisait à l'époque, pour lui poser des questions et pour débattre avec lui de points de la loi et de la tradition religieuse. Il a sûrement préparé minutieusement ce repas et je salue ici tous ceux et celles qui accueillent chez eux des groupes de maison, ceux qui les animent également et qui préparent ainsi la table pour les autres. Je sais que dans certains groupes, chacun accueille et anime à tour de rôle, mais je pense que dans tous les cas, chaque participant à un groupe invite en quelque sorte les autres chez lui. À travers sa présence, ses réflexions, ses idées, ses prières, ses questions. Et Jésus aussi se laisse inviter dans nos groupes, quand on ouvre nos rencontres par la prière, quand on lui demande de se manifester à nous et d'éclairer notre étude biblique, bien sûr à travers sa parole, mais aussi quand on lui confie les controverses, les impossibles, les incompréhensions de nos vies. Jésus ne décline aucune invitation et on peut être sûr qu'il est là, au milieu de nos groupes de maison, assis avec nous à table ou derrière l'écran de nos ordinateurs, exactement comme dans la maison de ce pharisien, où selon la coutume grecque de l'époque, pour les grandes occasions, il va s'allonger et s'accouder, la tête vers la table et les pieds vers l'extérieur. Mais si Jésus se laisse inviter, il est aussi celui qui invite tout le monde, sans exception. Et la pécheresse de l'histoire semble déjà le savoir. Elle sait qu'il est chez ce pharisien. Et cette marginale que personne n'invite probablement jamais va oser s'inviter là. Elle brise ainsi tous les codes et elle arrive un peu comme une apparition. Le texte ne mentionne pas son entrée, mais tout à coup, elle est là, au pied de Jésus, derrière lui. Elle renverse complètement la perspective. Elle, qui n'était pas invitée, est celle qui, à sa façon, va vraiment traiter Jésus comme un invité d'honneur. Elle lave ses pieds de ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux et elle les couvre de baisers et de parfums. Dans nos groupes aussi, Jésus invite tout le monde, même celui ou celle qui peut me surprendre par sa façon d'exprimer sa foi ou de lire tel passage de la Bible qui me dérange par son retard ou qui est très différent de moi. Si ces groupes nous permettent de grandir en amour, c'est justement parce que ce ne sont pas de simples groupes d'amis, mais des lieux où on se confronte aussi à la différence et où on apprend à transformer son regard. Et j'arrive au deuxième point. Les groupes de maison sont des lieux où on apprend à affiner son regard sur Dieu, sur les autres et sur soi. Contrairement à l'invitation de Jésus, je pense que nos invitations sont rarement gratuites et qu'elles ressemblent un peu plus aux invitations de ce pharisien. Elles signifient souvent qu'on considère la personne comme une personne qui peut, entre guillemets, appartenir au même monde que nous. Mais Jésus va laisser s'inviter dans la maison de ce pharisien une personne d'un monde a priori totalement opposé au sien, une femme pécheresse. Dans le groupe aussi, on peut côtoyer des personnes dont la vie est très différente de la nôtre. Et ces groupes sont ainsi des lieux où on apprend à changer radicalement de regard sur les autres, sur Dieu et sur nous-mêmes. Le pharisien regarde la femme. Il ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Ce qu'il voit, c'est littéralement en grec une pécheresse dans la ville, c'est-à-dire très probablement, on l'a compris, une prostituée. Il croit alors savoir aussi qui est Jésus, un prétendu prophète qui ne sait même pas que cette femme est une pécheresse. Il semble déçu par son invité et fâché que cette femme ait gâché son repas par sa choquante irruption. Nos groupes de maison, bien plus que le culte du dimanche, permettent aussi beaucoup d'interruptions, des questions déconcertantes, des débats imprévus, des demandes urgentes qui peuvent sembler retarder l'étude biblique. Ces groupes de maison sont bien sûr une bonne façon de s'intégrer quand on est nouveau dans l'Église, et j'en ai fait moi-même l'expérience il y a un an et demi. Et si c'est votre cas, je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à rejoindre un des groupes de notre Église. Mais je pense aussi que ce sont des groupes où on apprend aussi à revoir nos attentes et parfois, comme ce pharisien, à se confronter à la déception et à la frustration. Je vous lis quelques phrases du théologien Dietrich Bonhoeffer à cet égard qui décrit très bien ça. Un chrétien sérieux qui s'assoit pour la première fois dans une communauté chrétienne va avoir sûrement une idée bien arrêtée de ce qu'est la vie chrétienne et comment la réaliser. Mais la grâce de Dieu va chambouler tout ça. Dieu veut nous apprendre l'amour fraternel authentique. Et pour cela, nous devons vivre une vraie déception concernant les autres, les chrétiens. Et si nous avons de la chance, nous concernant. Être déçu, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est même souvent un signe que Dieu travaille en nous, que sa grâce vient chambouler nos vies. Et les groupes de maison sont un lieu où je pense qu'on peut apprendre à dépasser ces frustrations, où on apprend aussi à accepter le rythme de Dieu et des autres, qui est souvent différent du nôtre, et à laisser Jésus affiner notre regard. Et c'est exactement ce à quoi Jésus va inviter le pharisien de notre histoire. Il interrompt ses pensées et ses ruminations intérieures pour le nommer pour la première fois, Simon. Simon, c'est un prénom qui vient de la racine hébraïque écouter. Écoute, Simon. Simon se laisse interpeller, reconnaît une certaine autorité à Jésus. Parle, maître. Dans mon groupe, Si quelque chose me dérange ou me choque, Jésus m'appelle aussi peut-être avec tendresse à écouter plus finement. Jésus parle à Simon dans son langage à lui. Il va utiliser un procédé très coutumier des pharisiens qu'il connaît très bien. C'est un exemple concret et quotidien pour discuter d'un point de la loi. Il reconnaît aussi que Simon a bien jugé. Donc il va lui ouvrir tout doucement les yeux pour arriver à cette question. Tu vois cette femme ? Il révèle alors à Simon son propre regard sur cette femme. Une femme qui voit Jésus tel qu'il est vraiment, avec les yeux de la foi. Dans son langage à elle, sans qu'elle soit nommée et sans en mots, elle va exprimer tout son amour pour Jésus. Et elle termine en parfumant ses pieds, en geste qui signifie qu'elle a compris qui est vraiment Jésus, le Messie, c'est-à-dire littéralement loin, on l'a dit tout à l'heure dans une chanson, loin de l'Éternel, loin c'est celui qui a reçu l'onction. Jésus va montrer aussi à Simon ses propres manquements, tous ses actes d'amour qu'il n'a pas posés. Et il va enfin l'inviter, ainsi que tous ceux qui sont autour de la table, à quitter ses fausses certitudes et à se poser de vraies questions. Qui est cet homme qui efface même les fautes ? Dans nos groupes aussi se croisent divers langages. On ne met pas toujours les mêmes réalités sous les mêmes mots. Et au-delà des mots, il y a aussi le langage du corps de chacun et de chacune. Face à la différence, comme Simon, on pourrait parfois avoir tendance à nous considérer spontanément comme justes et à voir l'autre comme pécheur. Mais Jésus nous invite, au contraire, à voir les hommes et les femmes qui nous entourent comme des personnes uniques, qu'il aime à leur façon, qui sont aimées de lui et qui nous révèlent de nouvelles facettes de sa personne et de sa parole. Nous pouvons ainsi nous laisser toucher par les hommes et les femmes de nos groupes, exactement comme Jésus se laisse toucher par cette femme. Dans le même temps, Jésus nous appelle, comme Simon, à nous remettre en question et à nous voir, nous aussi, comme des pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés et d'apprendre à mieux aimer. Il nous fait ainsi découvrir toujours plus qui il est, un Dieu qui aime et qui pardonne chacun et chacune. Et il nous invite à placer notre confiance en lui, qui nous connaît profondément, tout comme il connaît les autres, et à devenir peu à peu parfum de reconnaissance pour lui et pour les autres. Et j'arrive au troisième et dernier point, les groupes de maison sont des lieux où la parole s'incarne et où se répand un parfum d'amour et de pardon. Alors la parole, elle a bien sûr une place centrale, je pense, dans tous les groupes de maison, qu'on appelle d'ailleurs parfois aussi des groupes d'études bibliques. Mais ces groupes ne sont pourtant pas de simples lieux d'études de la Bible, mais des endroits où la puissance de l'Évangile peut transformer nos vies de disciples. Ce ne sont pas des clubs de savants religieux, comme Simon voulait le faire avec sa maison, mais des lieux où on apprend ensemble à marier les vérités de la Bible aux réalités de nos vies quotidiennes. Ainsi, dans le groupe d'Eikour, on a récemment redécouvert l'importance de la prière à côté de l'étude biblique. La parole s'infuse peu à peu, en chacun, grâce aux échanges et aux divers éclairages qu'elle suscite dans nos groupes, mais aussi par nos prières et le partage des ombres et des lumières de nos vies, semaine après semaine. Le but de ces groupes n'est pas de nous transformer en érudits de la Bible, mais de nous aider à laisser la parole s'incarner dans nos vies. Alors la pécheresse de ce texte, qui est un des plus sensuels de la Bible, vit dans tout son corps l'amour et le pardon de notre Dieu. Ses larmes sont semblables à l'eau du baptême que les pharisiens ont refusée. Et l'onction des pieds était un geste tout à fait extraordinaire à l'époque, un geste très intime qui était posé seulement par des personnes débauchées, mais aussi pratiquée par l'épouse pour son époux ou la fille pour son père. La pécheresse traduit par cet acte qui est Jésus, on l'a dit, le Messie, celui qui a reçu l'onction et qui est à la fois prêtre, prophète et roi. Et elle nous montre aussi en Dieu qui est pour nous comme en époux et en père. Elle aime beaucoup celle à qui on a beaucoup pardonné. Amour et pardon ne cessent de s'entrecroiser dans ce texte. Tu l'as dit tout à l'heure dans la prière, Martine, c'est par la grâce que nous sommes ici. Et c'est vraiment du pardon du créancier qui fait grâce que naît l'amour du pécheur envers lui. Plus j'ai conscience de mon besoin d'être pardonné, plus mon amour pour Dieu et pour les autres qui me pardonnent peut grandir. Et cet amour et ce pardon sont dans nos groupes de maison un peu comme le parfum de cette femme. Quelque chose d'invisible, mais qui se répand partout dans l'air et dont on ressent la présence bienfaisante. L'amour s'incarne dans nos groupes à travers des tisanes, des chocolats, des gâteaux d'anniversaire, des calligraphies chinoises, des soirées de Noël, des chants parfois un peu désaccordés, en tout cas pour le groupe d'Eikour, des sourires complices, des rires, des larmes, comme celle de cette femme, des silences, des encouragements, des consolations, des étreintes et des pardons échangés quand nos paroles ou nos attitudes ont pu être blessantes. Dans le groupe d'Eikour, Daniel nous a invités en début d'année à vivre un petit moment de prière de confession où chacun a pu, en transparence et en authenticité, en toute simplicité aussi, reconnaître ses péchés sous le regard bienveillant de son père et de ses frères et sœurs. J'ai le sentiment que nous avons grandi tous ensemble dans la foi ce jour-là. Le groupe de maison est bien plus qu'un groupe d'amis. C'est un groupe de pécheurs et pécheresses, tous pardonnés, tous aimés, et qui apprennent ensemble à aimer leur Dieu et à s'aimer les uns les autres. Et on pourrait bien sûr en dire autant de toute notre communauté rassemblée aujourd'hui pour célébrer le culte et la Sainte Cène, et puis pour manger ensemble le temps d'une agape et continuer à construire notre projet d'église et à partager nos idées lors d'un forum. Ma prière pour chacun et chacune d'entre nous est qu'à travers la parole et la présence de Dieu et des autres, nous puissions, comme la pécheresse de ce texte, entendre résonner dans nos vies ces mots de Jésus. Tes fautes ont été effacées. Ta confiance t'a délivré. Pars en paix. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Vraiment, merci pour chacun des groupes de maison de notre Église et pour tous les parfums d'amour et de pardon qui s'y échangent. Merci pour tous les responsables de ce groupe, pour ceux qui les accueillent chez eux et qui les animent. Continue à les inspirer, mais également à leur apprendre à se laisser remettre en question. Je voudrais te confier aussi, Seigneur, ceux et celles qui ont pu être blessés ou déçus dans certains groupes. Viens nous guérir de ton onction. Oui, rends-nous attentifs les uns aux autres. Affine nos regards. Révèle-nous nos péchés et nos manques d'amour. Merci pour ta présence dans chacun de nos groupes, pour ton pardon et ton amour envers nous, pécheurs et pécheresses. Apprends-nous à mieux t'aimer, Seigneur, et à mieux nous aimer les uns les autres. Amen.
Merci Christelle pour ce moment de partage où tu nous as vraiment partagé sur l'importance de vivre ensemble notre foi dans une petite communauté. Et la communion fraternelle de me signaler, et puis je pourrais vous diriger.